Luc 1, 26, c'est mieux? Ou c'était ma voix qui était bizarre de toute façon? Pardon. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils et tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth, elle aussi a un fils malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Dans ce premier passage, on a déjà plusieurs choses qui sont vraiment instructives pour nous. Alors bien sûr que dans la culture où vivait Marie, on attendait le Messie. On attendait, donc vous voyez que le mot Messie veut dire celui qui a reçu l'onction pour être roi, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi on a gardé ce mot en latin, puis certains on ne les a pas traduits, etc. Mais... Donc ils attendaient celui qui allait reprendre la place de David. Et donc c'est vrai que d'une certaine façon, toutes les jeunes femmes, avant d'être mères, disaient « Est-ce que ça serait moi ?» C'était vraiment ancré dans leur culture. Pour ceux qui ont visité les États-Unis, là-bas, on éduque les enfants en leur disant « Tu pourrais être président un jour. » Puis c'est assez surprenant de voir tous ces gamins qui pensent qu'un jour, ils seront peut-être présidents. Quoi. C'est leur culture. Ben, il faut voir que c'était comme ça, mais encore plus fort. Donc, il y a un élément qui, pour nous, est loin parce que on n'attend pas, d'une part, on n'attend pas ça, et puis c'est pas dans notre culture. Mais ce côté-là, quand même, il faut bien le mettre en place. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'ange arrive, et puis il lui dit, « Réjouis-toi, à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Et on voit que le verset 29 nous dit, « Marie fut profondément troublée par ces paroles. » Le mot ici qui est traduit par « profondément troublée » veut dire avoir une grande agitation intérieure. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. On n'est pas dans un conte de fées ou dans quelque chose de surnaturel, mais bizarre. Marie, c'était en même temps une jeune femme normale, entre guillemets, humaine. Il y a un ange qui arrive, bon, c'est déjà assez étrange. Il lui parle, mais elle est profondément troublée. Et puis surtout, quel est le sens de ses paroles Et elle a peur, elle est inquiète. Et je crois que ça, c'est une chose qui est importante parce que on a tendance à lire les histoires de la Bible comme si c'était un peu des contes de fées. Les personnages de la Bible n'étaient pas comme nous. Ils savaient tout à l'avance, ils connaissaient la fin de l'histoire avant le début. Ils n'avaient pas peur, ils doutaient pas, c'était tellement simple pour eux. Non. Elle est là, elle voit ce... C'est étrange. Elle est troublée, elle a peur, elle est craintive. Et Dieu continue, même si c'est l'ange qui parle, mais qui dit « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. » Et puis il explique un peu. « Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, etc. etc. » Avec toute la promesse. Et Marie dit à l'ange « Comment se fera-t-il puisque je suis vierge ?» Ce qui est impressionnant, c'est l'allure à laquelle Marie intègre ce qu'elle vient de vivre et passe à l'étape d'après. Au départ, elle a peur, comme tout le monde. Mais l'ange lui explique, ben voilà, je viens de la part de Dieu, voilà ce qui va se passer, voilà les promesses qui sont faites. Et pour elle, c'est déjà c'est suffisant. Ces paroles-là trouvent un écho en elle est convaincue, et c'est il semblerait, d'après ce qu'on en voit là, c'était quelqu'un de très pratique, parce que il n'y a pas de discussion, pourquoi, comment, etc. Puis tout le côté hein, dont on parle souvent, mais et ma réputation, et Joseph, et mes projets d'avenir, et mon plan de carrière, et ce que moi j'allais faire, et ce que j'avais prévu pour ma vie. Attends, il me faudrait 6 mois pour réfléchir, on pourrait discuter, négocier, voir, reviens l'an prochain, on en verra, hein, ou si c'était chez nous, bah, écoutez, il faut qu'on fasse un comité pour y réfléchir, et puis on va discuter à la question. Non, elle est très pratique, elle a accepté déjà la première chose, et en même temps, c'est oui, mais bon, il y a un problème technique. Pour avoir un enfant, il faut être deux. Oui, je suis fiancé, mais pour le moment, on vit séparément. Je suis vierge. Elle est directe. Hein. Et je trouve que c'est une chose qui est instructive pour nous aussi. Quand Dieu nous demande quelque chose, bon, on doit accepter ce qu'il nous dit, mais on a le droit de discuter avec Dieu. Hein. C'est pas qu'on soit à la même hauteur, bien sûr. On n'est pas ses égaux. On n'est pas là pour lui dire ce qu'il doit faire. Mais quand il vient et qu'on ne comprend pas, si on a peur, d'abord il va nous rassurer, ça c'est la première chose. Si notre cœur est disponible, il va être rassuré. Et puis on peut et on doit poser les bonnes questions. Hein. Et on voit, effectivement, c'est une chose que la plupart des personnages de la Bible ont fait. Hein. Lorsque Dieu dit à Gédéon, par exemple, tu vas délivrer mon peuple. Ah, mais attends, comment c'est possible? Je suis le plus petit, je suis ci, je suis pas ça. Il y a une discussion qui s'installe. Mais Marie est vraiment très très rapide dans sa façon d'accepter ce qui lui est dit et d'être logique avec ce qu'elle croit. On va voir après, j'anticipe un petit peu, hein, mais on va survoler aussi ce qu'on appelle le cantique de Marie, hein, lorsqu'elle va visiter sa cousine et que remplie du Saint-Esprit, elle chante, elle donne une déclaration et on va voir dans ce cantique. Le contenu, je dirais un mot d'aujourd'hui, théologique qu'il y a dans la prière de Marie, c'est impressionnant. On voit que Marie, c'était quelqu'un, c'est pas par hasard si Dieu l'a choisie, hein, pas parce qu'elle était meilleure qu'une autre, mais elle avait une connaissance de Dieu qui était réelle, qui était profonde, et qui était beaucoup plus que juste émotionnelle. Hein. J'aime Dieu, il me fait du bien, parce que quand je m'approche, ça me fait un petit frisson dans le dos, alors je l'aime. Il peut y avoir ça, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais on va voir dans le développement du cantique qu'elle va proclamer, elle avait une connaissance riche de Dieu. Elle savait que Dieu était puissant, elle savait qu'il était juste, elle savait qu'il était saint, etc. Et comme nous ce matin, elle allait régulièrement dans des rassemblements au temple, etc. Et comme nous ce matin, elle chantait des cantiques, Seigneur, prends toute ma vie, sois le maître en moi, Seigneur, règne dans ma vie, je veux tout te donner. Et lorsque l'ange arrive et dit, ben, Seigneur, Dieu te dit, voilà, donne-lui ta vie pour faire ça. Elle est immédiatement logique et cohérente avec ce qu'elle croit. Et c'est en ça qu'elle est absolument extraordinaire, quoi. Parce que, on dirait, 100 ans de réaction, pratiquement, en quelques secondes, elle dit, mais c'est logique. Hein? Dieu est grand, Dieu est le créateur, Dieu est celui qui règne sur toutes choses, Dieu m'a faite pour sa gloire. Hein? Maintenant, il vient et il me propose quelque chose. Et je suis d'accord. Alors, elle a des questions. Comment ça va se passer? C'est pas possible aussi. Mais elle est déjà dans une logique d'obéissance et de recevoir. Et c'est assez extraordinaire parce que on trouve ça chez très peu de personnages, même dans la Bible. Hein. Pensez aux disciples masculins. Le temps qu'il a fallu avec quelqu'un comme Pierre. Hein. 3 ans d'enseignement avec Jésus. 24 heures sur 24, à voir des miracles, à entendre des choses, à assister à des choses extraordinaires, pour finalement renier Jésus et pas comprendre grand-chose. Dieu l'a quand même utilisé, hein, Dieu est bon. Marie, là, en quelques secondes, elle prend une décision qui va engager toute sa vie, hein, toute sa réputation, tout ce qui faisait son monde. Hein. On voyageait pas trop à cette époque-là. Elle vivait dans un village. Tout le monde connaissait tout le monde. Son avenir avant ça a été tracé avant qu'elle soit née. Hein. Elle était sûrement promise à Joseph avant qu'elle soit née, ou en tout cas quand elle était encore toute petite. C'est comme ça que ça se faisait. Ses fiançailles avaient été fêtées. Dans quelque temps, elle serait mariée. Elle aurait des enfants. Elle grandirait ici, etc., etc. Et là, en quelques secondes, comme ça. Une fois qu'elle a compris, qu'elle a reconnu la voix de cet ange était en accord, en écho avec ce qu'elle connaissait de Dieu au-dedans d'elle. Et elle a eu une cohérence, une logique, un courage qui, il me semble, est assez unique dans la parole de Dieu, dans les exemples qu'on a. Hein. Donc, elle pose sa question pratique, comment ça se fera-t-il, puisque je suis vierge? Et l'ange lui répond. Hein. Et ça nous encourage à poser des questions à Dieu. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et puis, il y a d'autres explications. Ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, etc., etc. Car rien n'est impossible à Dieu. Et là, on a ce verset 38 qui est absolument extraordinaire. Alors, Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Point à la ligne. L'histoire est réglée. Hein. Aujourd'hui, on dirait, voilà une affaire rondement menée. Tout ça n'a pas pris demi-heure. L'ange vient, il explique ce qu'il attend d'elle. Elle a des questions, elle les pose. Il y a des réponses. Et elle répond immédiatement. Hein. Je suis la servante du Seigneur. Et puis le mot utilisé, nous on a servante, c'est un peu plus gentil. Je suis l'esclave. L'os du Seigneur. Hein. Je lui appartiens. Et moi, c'est ce qui m'a interpellé, pour moi, ce qui m'a fait poser les questions, hein, c'est l'extrême cohérence de Marie avec sa foi. Elle connaissait Dieu, elle disait, elle proclamait certaines choses, sûrement. Et lorsqu'elle est dans la situation réelle, c'est une évidence, oui, et elle va dedans. On sait par la suite qu'elle n'avait pas tout compris, hein, puisqu'à un moment elle va essayer de sortir son fils de cette histoire-là parce que ça va trop loin et parce que ça va être compliqué et elle veut l'empêcher de continuer parce que c'est une mère et qu'elle est humaine. Et ça, c'est intéressant de voir ça aussi parce que ça nous montre bien que on peut être absolument sincère, sans réserve, convaincu, et puis on reste humain. Et on a nos faiblesses aussi, hein, ce qui a été le cas pour Marie, quand Jésus doit lui répondre, et ça a dû lui faire très très mal, hein, mais c'est qui, hein, on dit, ta mère est dehors, elle te demande. Non, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Je sais pas si vous, les mamans ici, vous pouvez imaginer ce que ça peut faire, hein. Vous allez voir votre fils qui est devenu une célébrité, vous pensez qu'il est en danger, vous voulez essayer de le protéger, de le ramener à la maison, vous pouvez même pas l'approcher parce qu'il y a tellement de bazar autour que c'est impossible de venir. Vous lui faites passer un message, et puis là, il prend le micro et il répond publiquement. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ouf. Marie avait été prévenue, hein, lorsque Jésus avait quelques mois, et que ses parents, je parlerai de Joseph une autre fois, donc je n'en dis rien, mais Marie et Joseph montent au temple pour faire ce qui se faisait dans la loi et faire circoncire Jésus. Et là, il y a un prophète, enfin c'est pas un prophète, un sacrificateur qui vient et qui prophétise, hein, et puis qui dit des choses merveilleuses sur Jésus. Et les parents sont émerveillés. Ça, c'est normal, hein. Tous les parents, hein, quand on dit quelque chose du bien de leurs enfants, grand sourire jusqu'aux oreilles. Hein. Oh, qu'il est beau, c'est tout son père, oh, ses beaux yeux. J'imagine Joseph, quand on lui disait que c'était tout son père, hein, devait apprécier. Mais là, dans la prophétie qui est annoncée, il y a autre chose. Et je vous lis Luc 2, 33-35. Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera les contradictions. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Ça faisait partie du paquet. Il y avait ça aussi. Et puis j'y reviendrai en conclusion. Mais là, Marie n'a pas encore eu cette prophétie-là. Juste, elle vient d'avoir cette annonce, elle comprend que Dieu l'a choisie, même si ça va bouleverser complètement sa vie, elle accepte ça, elle en est remplie de joie, elle est heureuse. Hein. Et puis, elle part en voyage rejoindre sa cousine qui, elle aussi, a vécu une naissance miraculeuse, même si c'est différent. juste qu'elle avait un mari, mais ils ne pouvaient pas avoir d'enfant, puis ils en ont eu un. C'était un enfant qui était né de façon normale, naturelle. Mais quand elle arrive visiter sa cousine, donc là je vous lis, je suis revenu dans Luc 1, 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Et s'écria d'une voix forte, Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. Je veux juste préciser que lorsqu'on a le mot heureuse ici, on en parlait un petit peu hier soir suite à une question de Kathleen. Dans le Nouveau Testament, en général, quand on trouve le mot heureux, il n'a pas du tout le sens que nous lui attribuons aujourd'hui. Hein? Pour un être humain normal à notre époque, être heureux, ça veut dire pouvoir faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, sans qu'il y ait de conséquences négatives. C'est à peu près ça le bonheur. Rien à voir avec la définition du sens de ce mot. Être heureux, c'est le même mot qu'on retrouve dans les béatitudes, hein, lorsque Jésus dit heureux serez-vous lorsque, heureux serez-vous lorsque, hein, ça veut dire littéralement être rempli de toute la plénitude de Dieu. C'est ça, être heureux. Alors effectivement, le fait d'être rempli de toute la plénitude de Dieu procure la chose la plus près du bonheur qu'on puisse connaître sur terre. Parce que c'est les seuls moments dans nos vies où on n'est plus rongé par l'insatisfaction. Lorsque la plénitude de Dieu me remplit, hein, je suis comme quelqu'un qui, vis-à-vis de la nourriture, à la fin d'un bon et gros repas, j'ai plus faim, je peux plus rien avaler, je suis rassasié. Donc, il me manque rien. Hein. Et si on se rappelle que la richesse se mesure pas à ce qu'on a, mais à ce qui nous manque, un homme riche, c'est celui à qui il manque rien. Dans l'instant où je suis rassasié, je suis un homme riche. Et c'est ça le sens du mot heureux. Lorsque Dieu me remplit de toute plénitude, dans ce moment-là, qui pour nous est ponctuel, hein, va durer un certain temps, mais pas éternel, ça doit se répéter, dans ce moment-là, il me manque rien. Il n'y a pas une seule chose à laquelle je pourrais penser en me disant, si j'avais ça en plus, ça serait mieux. Je suis satisfait intérieurement. Pas satisfait de moi, hein, mais rempli de lui. Donc, juste pour préciser que le mot heureux dans le Nouveau Testament, il a ce sens-là, et c'est bien de s'en rappeler, sinon on part dans une fausse direction. Ça n'a rien à voir avec la course après la satisfaction de notre égoïsme, qui nous laisse absolument tout le temps insatisfaits, hein, qui nous stimule juste tant qu'on n'a pas ce qu'on voudrait. Mais dès qu'on l'a, c'est vide. Alors que là, c'est le contraire. C'est un chemin difficile et qui arrive à un moment de plénitude et donc de satisfaction parce que rassasié par Dieu. Donc, tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. Alors Marie dit, et là on a ce qu'on appelle traditionnellement le cantique de Marie, et ce qui m'a impressionné ce matin, peut-être aussi parce que je le regardais en pensant au cours qu'on est en train de prendre le jeudi, où on est en train d'étudier de façon systématique certains sujets, on est en train de voir un petit peu l'essence et la nature de Dieu, hein. Dieu est infini, éternel et immuable, et il est infini, éternel et immuable dans tous ses attributs qui sont son omniprésence, son omnipotence, sa justice, sa sainteté, sa vérité, sa bonté, son intelligence, etc., etc. Et lorsqu'on médite sur la nature et l'essence de Dieu, on est émerveillé. Il y a un contenu qui est infini, qui est immuable, mais qui est tellement grand, on va passer l'éternité à l'explorer. Et ça m'a frappé de voir le contenu qu'il y avait dans la prière, dans le cantique, pardon, de Marie. Hein? Marie dit, Mon âme chante la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur. Déjà, on voit que le point de départ, Dieu est grand. Elle a compris l'omnipotence de Dieu. Hein? Dieu peut faire tout ce qu'il veut, comme il veut. Tout ce qui existe est là à cause de lui. Et on pourrait développer juste ce point-là pendant longtemps, mais, et c'est intéressant parce que si Marie avait pas cru ça, comment elle aurait pu croire qu'elle pouvait tomber enceinte sans coucher avec un homme? C'était impossible. Mais sa connaissance de Dieu était précise et en même temps pas théorique. C'était pas juste une vérité intellectuelle pour elle. Hein. Dieu est grand, Dieu est tout-puissant. Non, Dieu est grand, Dieu est tout-puissant. Et lorsque l'ange vient et lui dit, tu vas avoir un enfant sans avoir connu d'homme, elle dit, ben oui, puisque Dieu est tout-puissant. Y a-t-il quelque chose d'impossible pour lui, hein? Mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon sauveur. Elle connaissait Dieu comme celui qui a des solutions, qui peut nous apporter, nous sortir d'eux. Et bien sûr, elle le connaissait à travers l'histoire d'Israël, hein. Marie savait que la mer Rouge s'était ouverte pour le peuple d'Israël. Marie savait que David tout seul avait pu tuer Goliath. Marie savait que Gédéon, avec quelques trompettes et quelques cruches, avait pu délivrer Israël. Marie savait que Élie avait pu prier pour que la pluie tombe pas et elle n'était pas tombée. Elle connaissait ces choses-là. Mais pensez que ceux qui ont crucifié Jésus les connaissaient pareil. Ils avaient été à la même école, la même éducation, dans la même culture. Mais c'était pas vrai pour eux. C'était des informations. Pour Marie, c'était vrai. C'était tellement vrai que lorsque le moment de passer aux actes arrive, pas d'hésitation. Je suis la servante du Seigneur, qu'il en soit fait selon ta parole. Il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pas de la fausse modestie. C'est juste une juste compréhension des choses, hein. Dieu est infini. Et moi, je suis tout petit. Et c'est ce qui rend les choses extraordinaires, c'est que ce Dieu si grand me connaît moi personnellement qui suis tout petit. Comment c'est possible? Juste à la lumière de ce qu'on peut voir par l'observation, et même à cette époque-là, ils n'avaient pas la conscience du système solaire, etc., mais elles savaient, hein, Dieu est immense, Dieu est infini, Dieu est tout-puissant. Et moi, bah, je suis une petite jeune fille d'un petit village perdu au fin fond d'une province que personne ne connaît. Et Dieu est venu me rencontrer, moi. Et c'est extraordinaire. C'est pourquoi désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse. Et le mot bienheureuse ici, il est formé à partir du mot heureux qu'on a vu avant. Hein. Celle qui a été par Dieu remplie de toute plénitude. Car le Tout-Puissant, toujours cette idée que Dieu est grand, a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Elle était consciente de la grandeur de Dieu, de sa toute-puissance, du fait que c'était un sauveur, mais elle savait aussi, Dieu est un Dieu saint. Et ça voulait dire ce que ça voulait dire. Hein. Toute la sainteté de Dieu est là, et en même temps, elle n'est pas terrorisée. Saint est son nom. Et on n'a pas le temps de le développer, mais dans la Bible, le nom, c'est pas juste de citer le nom. Le nom a toujours un sens et il représente beaucoup de choses. Et elle connaissait toutes ses caractéristiques. Hein. Elle connaissait tous les noms de Dieu de l'Ancien Testament, il y en a toute une série, et ce que chacun voulait dire. Hein. L'Éternel, le Tout-Puissant, celui qui combat pour nous, celui dont le bras est pas trop court, celui qui est toujours avec nous, celui qui répond aux prières. Tout ça, c'était des noms de Dieu. Lorsqu'elle dit « Saint est son nom », il y a tout ça derrière, tout ce contenu tellement lourd de poids. Et sa bonté s'étendra d'âge en âge. Elle connaît aussi l'amour de Dieu. Hein. Sa bonté, ça comprend sa bienveillance, sa miséricorde, son amour, toutes ces choses-là, elle les connaît. Sinon, elle n'aurait pas pu, consciente de la grandeur de la sainteté de Dieu, accepter cette tâche, sachant qu'elle était une humble servante. Mais elle a toute cette compréhension-là qui est merveilleuse. Et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le révèrent. Il est intervenu de toute sa puissance, il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil, il a précipité les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. Dieu est juste. Hein. Il a comblé de bien ceux qui sont affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Oui, il a pris en main la cause d'Israël, il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert, comme il l'avait promis à nos ancêtres, à Abraham et à sa descendance par tous les temps. Et avec toute cette compréhension de Dieu et sa compréhension du rôle important qu'elle va avoir, elle est consciente d'une chose. Je fais partie d'un plan qui est plus grand que moi. Je fais partie d'une histoire. Cette histoire a commencé avec Adam et Ève, et puis Moïse, et puis Abraham, et puis Jacob, et les 12 tribus, et David, et tous les autres, et les prophètes, et Jérémie, et Daniel, et Esaïe, etc., etc. Et aujourd'hui, moi, je suis dans cette histoire. J'en fais partie, hein. Pour nous, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre nous dit « Vous qui n'étiez pas un peuple et qui êtes devenu le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas d'histoire, hormis la triste histoire, ben, je suis né pécheur dans un monde de pécheurs et corrompu, et puis je vais passer ma vie à essayer de survivre, de faire le bien sans y arriver. Mais qui je suis, où je vais, d'où je viens, toutes ces questions, hein. Pour Marie, elle a trouvé sa place, elle le sait. Je fais partie de cette grande histoire, la manifestation de la grandeur, de la sainteté, de la justice, de l'amour de Dieu, qui vient, qui va aller jusqu'à son but. Et moi, je suis dedans, et je suis à ma place, et je suis d'accord avec ce que Dieu veut faire avec moi. Ça, c'est extraordinaire, hein. Mais comme tout le sens que nous cherchons souvent dans des choses pas passionnantes se trouve ailleurs. Il se trouve là. Hein. Mais il y a un certain nombre d'éléments qui sont à leur place. On ne peut pas connaître Dieu comme elle le connaissait en 5 minutes, comme ça, là, juste parce que un jour j'ai levé la main dans une réunion de prière, on m'a dit « Levez la main, vous irez au ciel », j'ai levé la main, je vais au ciel, c'est super, gloire à Dieu. Maintenant je vis comme tout le monde en essayant d'être gentil et honnête. C'est pas ça. Elle avait appris de Dieu, jour après jour, moment après moment, dans ce qu'il y avait à l'époque, hein. Elle allait au temple, elle apprenait les textes, l'Ancien Testament, etc. Mais en même temps, dans une communion avec lui, dans un apprentissage de sa voix qui a fait que le jour où l'ange vient et lui parle de la part de Dieu, bien sûr, elle est effrayée, elle est humaine, mais dès que... Ah, mais je connais cette voix. Ouais. Hein? Exactement comme Samuel dans l'Ancien Testament qui entend cette voix et puis... Ah oui, c'est la voix de Dieu, je la connais. Hein? Comme David. Et Jésus, après, va dire, mes brebis entendent ma voix et elles me connaissent. Elles ne suivront pas un étranger parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Et pour nous, c'est un défi, cet exemple-là, de nous dire, mais est-ce que je connais la voix de Dieu? Oui, je sais des choses sur Dieu. Hein? Peut-être, peut-être même pas. Ben, il faut commencer par les apprendre. Mais même les choses que je connais sur Dieu, ça sert à rien si ces choses-là font pas que je connais Dieu. Pas que je connais tout de lui, bien sûr. Hein? Mais je connais sa voix. Je sais qui il est. Je sais qu'il prendra soin de moi, il a promis. Je sais qu'il sera avec moi tous les jours, il a promis. Il m'a jamais dit que tout irait bien, non. Il m'a jamais dit que ça serait facile, non. Il m'a jamais dit que j'aurais pas de problème, non plus. Il m'a jamais dit que j'échouerais pas. Mais il y a des choses qu'il m'a dites. Et elles sont claires. Et je les ai pas imaginées, elles sont écrites noir sur blanc, hein. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hein? Pourquoi vous inquiétez-vous du lendemain? Le lendemain aura soin de lui-même. Pourquoi vous inquiétez-vous de ce que vous mangerez, de ce que vous serez vêtu, etc.? Ce sont ceux qui ne me connaissent pas qui s'en préoccupent. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Il nous les a dites, ces choses-là. On les sait. Mais lorsque le test vient, que Dieu vient et dit, bon, suis-moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Peu importe, suis-moi. Hein, comme il a fait avec ses disciples. Quelle est ma réponse? Oh, attends, 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 attends. Je ne signe pas un contrat sans l'avoir lu. Explique-moi. Quelles sont les conséquences? Alors pour ma retraite, qu'est-ce qui va se passer? Les primes, les bonus, le salaire, les conditions, les congés, c'est quand? Jusqu'où? Quand c'est que je peux me retirer? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Que vont penser mes voisins? Qu'est-ce que vont dire mes enfants? Et puis bon, par rapport à ma formation, je trouve pas que ce soit. C'est pas ce qu'on voit là. Alors on a l'impression que c'était une époque, oh, ils étaient bêtes à cette époque-là, ils connaissaient rien. Non, c'était des êtres humains comme nous, ils étaient aussi intelligents ou plus que nous. C'était exactement pareil. Le poids de la culture était très fort, le qu'en dira-t-on existait aussi, l'envie de faire sa vie était la même. Marie, naturellement, elle voulait ben, avoir son mari, avoir ses enfants, s'occuper de sa maison, voir grandir ses petits-enfants, cultiver son jardin, aller au puits tous les jours papoter avec les autres femmes, de temps en temps peut-être aller promener au bord du lac hein, une semaine l'été. Et puis voilà. Mais tout d'un coup, tout change, et elle l'accepte. Et ça, c'est extraordinaire. Et puis, on voit dans ce que je vous ai lu tout à l'heure, hein, cette prophétie qui est faite, des choses merveilleuses qui sont dites sur ce fils qui était né. Et puis, quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Et donc, ben, il y a eu cette fois, entre autres, où son fils, a paru ne pas la reconnaître. On sait que c'était pas un manque d'amour, hein, c'était pas parce qu'il aimait pas sa mère. Il y a eu, la Bible le dit pas, mais imaginez ce qu'elle a dû vivre quand elle a élevé Jésus, hein, chaque jour quand elle allait chercher l'eau au puits et toutes les femmes qui la regardaient avec. Ouais, c'est celle qui dit que elle a eu un enfant sans connaître un homme. Hein? Elle a vécu ça tous les jours, ça devait être horrible, horrible. Parce que bien sûr, quelques-uns l'ont cru, mais la plupart ne l'ont pas cru, hein. Ouais, hein. Les mieux intentionnés pensaient que c'était Joseph, et puis bon, ben, c'est pas trop grave, il a juste pris un peu d'avance, hein. Les moins bien intentionnés disaient, il a quand même un peu le profil du facteur, hein. Mais personne ne croyait réellement ce qui s'était passé. La preuve, c'est que le seul endroit où Jésus n'a pas pu faire de miracle, c'était dans son village. Pourquoi? Parce que tout le monde croyait une histoire fausse de lui. Hein. Il a été là-bas, il a lu un texte, et puis ils ont voulu le lapider, il a dû partir. Il n'a rien pu faire. Jésus. Hein. À cause de l'incrédulité, de la méchanceté. Mais Marie, elle vivait dans ce village. Donc oui, il y avait, c'est la mère du Sauveur, celui qui va régner éternellement dans l'éternité, ces choses-là. Mais il y avait le quotidien. Combien de fois elle a dû se demander, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais dit non à l'ange? Est-ce que ma vie aurait pas été plus simple? Après tout, j'ai qu'une vie comme tout le monde. J'ai le droit de la vivre, moi aussi. J'ai le droit d'exister. J'ai le droit d'être heureuse. Je sais pas si ce genre de philosophie existait à l'époque. Mais elle a pu le penser parce qu'elle était humaine. Mais elle n'est pas. Bon, de toute façon, elle ne pouvait pas revenir en arrière. Mais en tout cas, elle l'a accepté. Elle a vécu avec ça. Et puis en même temps, ben, il y avait toutes les bonnes choses. Et ça l'a amenée jusqu'au pied de la croix, parce qu'elle a vu son fils mourir de façon horrible. Et que Jésus ben, prend quelques-unes de ses dernières paroles pour elle, en parlant à son disciple, hein. Prends soin d'elle, c'est ma mère. Cette dernière reconnaissance. Et c'est magnifique. Et puis, ben, elle a quitté cette terre comme tous les êtres humains. Elle est dans la présence de Dieu. On l'a pris pas. Elle n'est pas plus que quelqu'un d'autre en tant qu'être humain. Mais c'est un personnage extraordinaire parce que c'est un exemple de foi comme il n'y en a pas d'autre dans la Bible. C'est un exemple de détermination, de courage et de conséquence avec sa foi. Le seul, pas le seul, mais un de ceux qui ont eu autant de détermination, c'était l'apôtre Paul. En fait, l'apôtre Paul, il a quand même persécuté l'Église pendant des années sans rien comprendre. Il a fallu que Dieu le rende aveugle, le jette à bas d'un cheval, l'envoie dans un désert. Imaginez le boulot, quoi. Marie, un ange qui vient et qui lui dit une parole. Et comme ça. Oui. Qu'il en soit fait selon ta volonté. Hein. Que tes paroles s'accomplissent pour moi. Ça, c'est bouleversant. Et pour nous, est-ce que, quand Dieu vient nous demander de le suivre, est-ce que nos calculs et nos peurs de la souffrance qui va venir avec nous empêchent de le suivre? C'est un mauvais calcul. Que ça nous fasse peur, c'est normal, hein, mais c'est un mauvais calcul. Parce que, de toute façon, sur Terre, nous allons d'une façon ou d'une autre souffrir. Si le but de notre vie, c'est d'éviter la souffrance, un, ça va être une vie minable, deux, on va rater notre vie parce qu'on va de toute façon souffrir d'une façon ou d'une autre. Mais souffrir sans raison autre que la méchanceté de ce monde et ma méchanceté à moi, c'est triste. Bah, Dieu sera quand même avec moi si je suis son enfant, hein, c'est pas la question, c'est pas conditionnel. Mais je vais passer à côté. Alors que si je suis ce que Dieu m'a demandé, et il y aura cette épée qui va me transpercer le cœur, parce que Jésus a été très clair avec ses disciples, hein, voilà ce qui accompagneront, ce qui croiront en mon nom, ils verront des miracles, ils verront ci, ils verront ça, avec des persécutions, des difficultés, des oppressions, quelle que soit la forme qu'elles prennent. Mais voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et on voit comment les premiers disciples, ceux justement qui avaient raté pas mal de choses, hein, comme Pierre et les autres, une fois qu'ils ont dit oui et qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, ils se font mettre en prison parce qu'ils ont prêché la parole de Dieu, on les bat, on les fouette, c'était pas juste une petite tape, hein. Ils sortent de là, heureux d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus-Christ. C'est pas possible naturellement un truc comme ça. Mais parce qu'ils ont accepté de suivre Christ, alors il y a eu des épreuves, mais il y avait la provision. Et ils ont vécu des choses extraordinaires. Ce qu'on peut dire des premiers croyants, c'est que leur vie n'était pas ennuyeuse. Ils ne se demandaient pas en se levant le matin, comment je pourrais faire pour me motiver pour aller au culte? Est-ce que je devrais m'engager? Non. Ils ne savaient pas en se levant s'ils seraient vivants le soir. Mais quand le soir ils étaient vivants et qu'ils avaient peut-être été maltraités, ils se retrouvaient avec cette joie, cette plénitude intérieure qui disait, Seigneur, merci. C'était encore une journée extraordinaire. une journée arrachée au non-sens, à vivre pour moi, pour rien, tourner en rond, une journée pleine de vraies valeurs. Et tout ça, ben Marie nous l'enseigne par son exemple, par sa vie. C'est pas elle qui peut le produire en nous, mais nous pouvons connaître le Dieu qu'elle a connu. Nous pouvons l'écouter, nous pouvons l'accepter, nous pouvons lui dire oui. Ça changera beaucoup nos vies. Alors, on attaque la période de Noël, et puis je trouve que c'est bien de l'aborder de cette façon-là. Seigneur, est-ce que tu veux venir régner dans ma vie? Naturellement, moi je dis systématiquement non. J'ai pas envie. Hein? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Mais c'est pas la bonne question. Enfin, c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne attitude. On peut poser des questions à Dieu tant qu'on veut, ça c'est pas un souci, tant qu'on n'est pas rassuré, tant qu'on n'a pas compris. Mais il faut qu'on accepte et qu'on comprenne, et c'est ça aussi la foi, que le chemin que Dieu a prévu pour nous, c'est pas le plus facile, mais c'est le seul qui va satisfaire nos âmes. C'est le seul qui va nous remplir. Alors il faut qu'on arrête de calculer, oui, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Et si je perds le contrôle, et, ah, ça veut dire que je serai pris un soir de plus par semaine, mais je suis déjà plus assez de temps pour moi. Mais... Non, c'est pas comme ça qu'il faut calculer. Seigneur, d'abord je veux te connaître. J'ai besoin de savoir qui tu es, pas juste un truc vague et flou qui après l'éternité un jour fera que non. Qui tu es? Qu'est-ce que tu comment tu penses? Qu'est-ce que tu qui tu es, hein? Et ça c'est sa parole qui nous le révèle. Et puis je veux reconnaître ta voix et puis je veux te suivre. Et puis ça c'est le travail du Saint-Esprit en nous par sa grâce. Seigneur, nous te demandons de toucher nos cœurs par l'exemple de Marie, et que nous puissions nous aussi, dans notre faiblesse, nous tourner vers toi qui es un Dieu puissant, parce que rien ne t'est impossible, Seigneur. Et nous avons besoin que tu viennes bousculer nos vies. Nous avons besoin de répondre positivement à ton appel, de te dire oui, même sans savoir ce qu'il y a derrière. Et nous savons que tu es toujours avec nous, que tu nous accompagneras. Tu seras dans chacun des moments faciles ou difficiles, jusqu'au bout du chemin, jusqu'à ce que nous soyons enfin dans ta présence pour toujours, Seigneur. Merci pour cette certitude, bien travaillée dans nos cœurs, et que nous puissions vivre toute cette période de Noël dans cette attitude, et puis le reste de nos vies aussi, bien sûr, mais déjà ce mois qui arrive, en acceptant ta volonté, en te mettant à la première place. Et en vivant de cette vie qui vient de toi, Seigneur Dieu.